Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Alexis Gimbal en votre compagnie, Hugues Léger et Charlotte Rebillard-Minette sont à mes côtés aujourd'hui. Je prends aussi une minute là, pour souligner, aujourd'hui faire un petit clin d'œil à mon papa. Ça fait presque 20 ans qu'il est plus parmi nous depuis de mars 2007. Alors, un petit clin d'œil à mon papa aujourd'hui. Sur une note un peu plus chaleureuse, Hugues Léger, comment vas-tu? Comment te portes-tu en direct du Parc Jarry?
Ça va bien, Alex. Ça va bien, Charlotte. Les tournois du printemps commencent. Là. Il y a des ITF 15 000 cette semaine, notamment du côté de Brossard, au Sanier de Brossard, et au niveau féminin. Et côté masculin, il y en a un au stade IGA aussi là, qui se présente. Donc, l'action là, des tournois de printemps se met en branle. Les beaux jours s'en viennent. J'ai même entendu que des terrains de tennis extérieur avaient eu des filets le week-end dernier.
Ben, je suis pas vraiment surpris parce que moi, j'habite à côté du terrain de golf, le Cerf. Ouais. Ça donne beaucoup sur le terrain présentement. J'ai l'impression qu'on va ouvrir très tôt les terrains de golf. Charlotte, toi, comment vas-tu? Comment te portes-tu? As-tu déjà là, un œil sur les terrains extérieurs?
Oui, je regarde les terrains très souvent, très régulièrement, puis j'espère que bientôt, ils vont être prêts.
Tu frappes encore régulièrement?
J'essaye, mais pas comme avant, mais j'aime ça encore. Puis j'ai une de mes amies qui était au Centre national avec moi aussi, qui est rendue à Montréal maintenant. Puis on va essayer de frapper une fois par semaine, toujours ensemble.
Ben, tu peux la nommer, ton amie, elle a quand même joué des hauts niveaux.
Oui, Marie-Alexandre Leduc, qui travaille maintenant de Montréal, puis qui vient du Saguenay, en fait, puis qui a été au Centre national pendant quelques années avec moi. Donc, on se connaît depuis qu'on a 9-10 ans, puis là, on est bien contente de se retrouver puis de frapper ensemble une fois par semaine, comme dans les bons vieux jours.
Marie-Alex, qui a joué universitaire américain et qui a fait des tournois que vous connaissez tous, là, autant en repas que à Granville, les a joués également, Marie-Alexandre, puis elle viendra faire un tour, ça nous fera plaisir de la recevoir à notre émission. Bon, parlons de tennis, puisque c'est notre mandat. On va commencer comme c'est l'habitude avec les résultats canadiens. Je veux qu'on revienne sur Leila Annie Fernandez. On regardait son tableau la semaine passée, c'est-à-dire, et on se disait, c'est quand même prenable pour Leila Fernandez. Malheureusement, elle a dû abandonner, espérant que ce ne soit pas une blessure qui soit trop grave. Commentaire sur cette défaite à son premier match, mon cher Hugues?
Ben, c'est une blessure à l'épaule qui l'incommodait. Là. Apparemment, ça ne doit pas être si grave parce qu'elle est dans le tableau de Indian Wells. Donc, c'est plutôt encourageant. Encore une fois, très bon début d'année pour Leila. J'ai hâte de voir ce qu'elle pourra faire sur les terrains d'Indian Wells. Mais bon, donc c'est des choses qui arrivent. Hein. Moi, le seul point peut-être que Charlotte peut en parler un peu, c'est que Leila, on a vu au fil des années, a eu des périodes où c'était plus compliqué au niveau de son lancer de balle, au niveau de son service. Est-ce qu'il y a un enjeu qui commence à émerger au niveau de son épaule? On verra, mais bon, j'ai pas tant d'analyse à faire là, sur ce match-là. Je pense que c'est une blessure, puis on va la revoir très vite au plus haut niveau.
Ouais, comme tu dis, elle est inscrite dans le tableau. Charlotte, est-ce que ça arrive souvent que les joueurs se protègent dans un tournoi un peu plus mineur pour avant d'aller jouer à un tournoi plus important comme Indian Wells? Ou est-ce que, dans la mentalité d'athlète, on va tout faire pour aller plus loin dans chaque tournoi, puis peu importe ce qui arrivera la semaine prochaine?
Je pense que de base, on a toute cette mentalité-là, comme tu dis, de vouloir pousser sur chaque match, sur chaque tournoi, de faire du mieux qu'on peut toujours. Puis c'est à l'année longue, là, encore, le tennis, il y a des tournois à toutes les semaines. Donc, je pense qu'on est aussi réaliste de savoir que si on fait ça, on peut aggraver une blessure, on peut ne pas jouer un certain grand chelem ou un certain grand tournoi que les points sont importants, les bourses sont importantes. Donc, je pense qu'il faut être intelligent, il faut être équilibré, il faut voir parfois si on pousse, est-ce qu'on est capable de pousser. Souvent, quand on parle avec notre physio ou les gens autour de nous, ils vont nous dire si ça s'aggrave, c'est pas une bonne idée de continuer. Donc, tu sais, d'avoir des petits repères comme ça, de savoir à ce moment-là, c'est peut-être mieux d'arrêter pour la semaine prochaine. Justement, là, le tournoi était peut-être un petit peu plus important pour elle, puis pour les points, etc. Donc, je pense que c'est ça, c'est de voir les pour et les contre. Quand ça commence à s'aggraver, peut-être prendre une pause puis attendre à la semaine prochaine. Oui, ça arrive qu'on se protège, dans le fond, là, pour être sûr de pouvoir jouer le plus possible.
Intéressant. En même temps, c'est certainement pas une bonne nouvelle parce que, bon, comme tu dis, j'imagine que si tu es à 100%, tu prends pas quand même la chance d'avoir un petit inconfort et puis d'abandonner le tournoi à ce niveau-là. Là. C'est sûrement pas une bonne nouvelle.
Exact. Dans le cadre, non, c'est ça.
On verra qu'est-ce que ça donnera dans son cas à elle pour Indian Wells. Comme tu dis, elle est dans le tableau. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Bon, évidemment, dans les gros tournois, là, les joueurs trouvent toujours... des moyens plus intéressants de combattre la douleur, là, peut-être. Bon, une autre Canadienne qui était en action également à San Diego. Bon, on était content de voir Marina Stakušić parce que c'était qualifiée, elle, pour le tournoi avant de passer le premier tour. Elle a finalement perdu au deuxième tour contre Donna Vekic. Commentaire, Hugues. C'est quand même un autre résultat qui est pas si mal là, pour la jeune fille de 19 ans qui va faire parler d'elle de plus en plus. Là. Je serais pas surpris d'avoir dans le top 100, elle, rapidement d'ici la fin de l'année. Là.
Ouais, c'est la star montante en ce moment, Stakušić, elle vient confirmer sa belle performance en Billie Jean King Cup en fin d'année. Belle victoire au premier tour, match accroché au deuxième tour qu'elle perd, mais elle progresse beaucoup au classement. Je pense qu'elle a gagné 30 places environ cette semaine au classement. Donc, elle est sur une lancée, Stakušić. Là, on va l'avoir beaucoup cette année aussi, je suis convaincu.
Ben, elle n'a presque pas de points à défendre. Je veux dire, elle avait ben presque non, pas ça. Joué l'année passée avant le milieu de l'été ou à peu près. Là. Alors, là, après ça, là, au milieu de l'été, elle va avoir un peu plus de points à défendre, mais elle devrait jouer théoriquement des tournois de plus haut niveau. Alors, j'ai l'impression que ce sera une année où elle va faire une montée au classement assez vertigineuse. Je ne sais pas, elle est 220e présentement, là, autour de la 220e place mondiale. Ouais. À quel point c'est compliqué, Charlotte, de passer, je ne sais pas, du top 200 au top 100, là, parce que, bon, la marge de manœuvre et le niveau de joueur est absolument phénoménal là, entre 200 et 100.
Oui, exact. Bien, je pense que plus tu progresses dans le classement, plus qu'il y a des tranches du classement qui sont difficiles à atteindre. Donc, je pense qu'au début, tu avances, puis là, tranquillement, tu perds ce top 500, puis tout ça. Mais quand tu arrives dans les 200 meilleures joueuses, ça joue régulièrement, à chaque semaine, ça joue bien, ça c'est sur tous les tournois. Donc, je pense que là, ça va peut-être être des petits détails. Là, comme là, elle était blessée un petit peu plus là, dans la dernière année. Même, je pense qu'elle n'avait pas beaucoup joué récemment, dans les trois derniers mois. Donc, je pense que c'est quand même très bien ce qu'elle démontre. Je pense qu'elle avait encore un peu mal à sa jambe aussi dans son dernier match. Donc, c'est quand même un 3-7 accroché. Ouais. Seulement un bris au troisième, je crois, donc contre Vekic, qui connaît quand même une bonne séquence. Donc, je pense que c'est très positif pour Marina, qui a une très belle attitude aussi, qui est agréable à travailler avec. Donc, je pense que ça va être difficile, c'est sûr, évidemment, de rentrer dans le top 200, dans le top 100. Mais avec le physique, l'attitude puis les capacités qu'elle a sur le terrain, on l'a vu à la Coupe Billie Jean King Cup, qui est capable de vraiment garder ses émotions puis de jouer contre des filles de très haut niveau, d'aller chercher des victoires dans des circonstances qui sont quand même assez stressantes là, quand tu joues pour ton pays. Donc, moi, je pense que si elle continue de travailler fort comme ça puis de jouer sur les tournois régulièrement chaque semaine sans trop de blessures, ça ne devrait pas être très long avant qu'on la voit dans le top 200, puis peut-être quelques, pas si longtemps, quelques années peut-être avant de percer le top 100.
Ah ouais, en quelques années, c'est drôle. Moi, j'ai l'impression que ce sera peut-être avant ça. Enfin, on verra. Ouais, qu'est-ce que tu allais dire?
Ben, des années comme deux ans, mettons deux, okay. Trois ans.
Intéressant. Mais comme tu dis, c'est effectivement très difficile là, de percer le top 100. Là. Tu sais, je le dis souvent, la comparaison, on le fait avec le hockey, les gens voient comme un centième joueur mondial, comme des fois un calibre peut-être plus réduit que ce que c'est vraiment, mais imaginez-vous dans n'importe quelle profession, être le centième meilleur sur la planète, C'est quand même assez phénoménal. Et je le dis souvent, si vous faites la comparaison au hockey, vous êtes un centième mondial, ben, vous jouez sur un premier trio, vous êtes un premier défenseur quelque part dans la Ligue nationale et vous faites 6-7 millions par année. Là. C'est ce niveau d'athlète-là. Puis quand je regarde, je fais souvent la comparaison avec Alexis Galarneau, par exemple, qui lui, justement, il est autour de la top 200. Ben, si c'était un joueur de hockey, il serait un joueur très, très bien rémunéré dans la Ligue nationale de hockey.
C'est ça. Alors, c'est ça qui est mélangeant des fois avec le tennis, c'est que les perceptions sont un peu différentes, exact. Mais ça reste que si t'es centième au monde, puis comme tu dis, dans n'importe quoi, si t'es le centième au monde, c'est que tu fais quelque chose de vraiment très bien, puis tu dois avoir des bonnes conditions parce que c'est extraordinaire. Donc, faut garder ça en tête aussi. Là. Déjà qu'elle soit dans le top 220 ou quelque, tu sais, c'est quand même déjà très bien à son jeune âge.
Hugues, toi, t'es dans mon top 100 des animateurs de podcast.
Moi, je vous l'ai dit, je vais être dans le top 100 over 100, donc top 100 des plus de 100 ans.
Ouais. Je te souhaite, d'après moi, je ne sais même pas. Honnêtement, j'ai l'impression que si tu fais juste un round à 100 puis que tu joues, tu es dans le top 100. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas tant que ça.
Il n'y en a peut-être pas plus que ça.
Mais avant qu'on passe à un autre sujet, Charlotte, j'ai une autre question pour toi. Là, je m'adresse à la coach, peut-être plus qu'à la joueuse, mais bon, quand tu regardes Marina Stakušić, si tu veux progresser au classement, est-ce que tu es mieux d'essayer d'aller te qualifier dans des tournois de plus haut niveau ou est-ce que tu es mieux d'aller, je ne sais pas, chercher des points dans des tournois un peu plus de bas niveau? Je ne sais pas. C'est quoi la stratégie selon toi?
Bien, je pense que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend des possibilités que tu as aussi. Si jamais tu as un wildcard dans un gros tournoi, comme si elle avait eu un wildcard à Indian Wells, je pense que tout le monde, puis qu'elle se sentait bien, puis en forme, je pense que tout le monde aurait dit « on y va, on prend l'opportunité, c'est extraordinaire. » C'est du bon bagage aussi là, pour elle de rentrer dans ces gros tournois-là. D'un autre côté, on parle souvent d'aller chercher des victoires quand tu essaies de prendre confiance, puis de gagner des matchs, c'est toujours bien, c'est toujours recommandé. Donc, c'est jamais dans ma vision à moi mauvais d'aller dans des plus petits tournois, puis de jouer beaucoup de matchs, puis d'enchaîner les victoires, puis de justement avoir ce momentum-là, cette confiance-là. Puis, il n'y a pas de mauvais match, je pense, parce que peu importe si tu joues plus fort, plus faible, tu as des choses à travailler, tu as des choses que tu peux mettre en action. Puis, quand tu joues un petit peu plus fort, des fois, tu ne vas pas justement chercher toutes les victoires que tu pourrais aller chercher dans des niveaux plus bas. Donc, je pense que c'est un bon mélange de faire les deux. Quand tu as des opportunités pour jouer plus haut, tu y vas. Mais si tu joues juste plus haut, ben, à un moment donné, ça peut être difficile sur le moral parce que tu ne vas pas chercher autant de victoires que peut-être t'en avais chez les juniors ou que t'en avais auparavant. Puis si tu joues juste plus faible, ben peut-être que tu vas pas chercher le petit plus ou tu vois pas ce que les autres ont que tu devrais peut-être travailler. Donc, je pense qu'il y a un bon jugement des deux à faire en tant qu'équipe autour de la joueuse. Parce qu'elle, peut-être qu'elle va vouloir jouer juste des gros tournois ou juste, tu sais, elle veut continuer de gagner, donc elle veut rester dans les plus petits tournois. Donc, de voir comment l'athlète se sent, de voir les opportunités qu'elle a, puis de bien mélanger les deux. Parce que c'est sûr que quand tu vas dans des plus gros tournois, tu as évidemment plus de points, puis c'est plus facile d'aller chercher rapidement un classement qui est souhaitable.
Intéressant. Merci, Charlotte, pour ta perspective. C'est exactement ça que tu peux nous amener, que nous, on peut un peu plus difficilement faire. Quand on regarde les résultats de la semaine dernière, il y a des résultats qui sont particulièrement intéressants. Je vais mentionner rapidement Baez qui l'a emporté au Chili, mais si on parle du Chili, c'est peut-être plus pour parler du Canadien Tabilo qui a remporté le tournoi du côté du double. Et du Canadien, ben, parce que, si je ne me trompe pas, il est né à Toronto. On en a parlé à quelques reprises. Il représente le Chili, mais c'est un petit gars de chez nous, comme Emma Raducanu. Je vais la nationaliser là, puisqu'elle est...
Ben, encore plus parce que c'est quelqu'un que je connais bien, Alejandro. Il s'entraînait dans les camps nationaux quand on était jeunes ensemble. On est allé même sur des tournées à l'extérieur ensemble. Donc, il a fait partie des programmes de Tennis Canada jusqu'à un certain âge. Je pense que où est-ce qu'il a fait un petit peu plus son propre chemin, qui était peut-être moins sélectionné parce que... c'est la croissance et d'autres raisons, mais il est vraiment remonté vraiment bien. Là, il a progressé beaucoup, puis je pense qu'il a décidé d'aller avec le Chili, mais c'est ça, il a vraiment fait partie des programmes, puis moi, je l'ai connu à travers justement Tennis Canada, fait que ça, c'est récent qu'il n'est plus avec nous, disons. Là.
Intéressant. C'est un garçon sympathique?
Oui, très sympathique.
Bon, content d'apprendre ça. Alors, il a remporté un double. Il avait remporté un titre un peu plus tôt cette année également en simple tabilo. Alors, non, effectivement, c'est peut-être un gars qu'on aimerait avoir sous la bannière canadienne avec les résultats qu'il a fait récemment, mais c'est pas la première fois. On voit ça, on l'a vu ça à plusieurs reprises. Un joueur dont tu nous as parlé beaucoup depuis le début de la saison, mon cher Hugo Imbert. Quel tournoi il a reconnu à Dubaï. Il a battu mon fils Murray Urkacz. D'ailleurs, c'est la deuxième fois qu'il bat Urkacz dans un tournoi avant de remporter le tournoi. Medvedev et Bublik pour l'emporter en finale. Un deuxième titre cette année après Marseille. C'est tout un début de saison quand même pour le Français Hugo Imbert.
Ouais, un sixième titre en carrière pour Hugo Imbert. Il n'a jamais perdu en finale, Hugo Imbert. C'est un match, c'est un joueur de grandes occasions, visiblement. 14e rang mondial cette semaine, son plus haut rang. On se rappelle, Alex, on l'a rencontré à Granby en 2022. Il était tombé au 157e rang mondial. Il jouait le Challenger de Granby à ce moment-là. Je l'avais interviewé, un gars hyper sympathique qui avait déjà battu des grosses pointures comme Zverev, comme Medvedev, mais qui a eu une mauvaise réaction au vaccin COVID. Ça a pris du temps avant qu'il s'en remette complètement. Mais là, il est vraiment parti pour une séquence assez impressionnante. Moi, je pense qu'il est vraiment parti pour rejoindre le top 10, ce Hugo Imbert, joueur français, gaucher. Victoire contre un des joueurs en forme du circuit, Alexander Bublik, donc 6-4, 6-3. Dubaï, un gros ATP 500. Là. Hugo Imbert est sur une excellente lancée en ce moment.
Ouais, et Urkacz et Medvedev dans ce tournoi-là. Et Andy Murray, peu importe quand tu l'affrontes, c'est jamais simple. Parlez-en aux joueurs canadiens qui l'ont affronté récemment. Et mon fils au premier tour, déjà, c'est vraiment un tableau digne de ce nom. Là. Il a pas volé ce titre-là, Hugo Imbert, comme tu dis, c'est son sixième titre. Il avait d'ailleurs, je disais, qu'il a battu Urkacz à Marseille aussi, mais il avait fait tout un match aussi à Melbourne, un 4-7 particulièrement très serré au troisième tour. Là. Alors, peut-être une rivalité là, qui se développe entre ces deux joueurs-là. Et un autre joueur qui a remporté un titre, c'est Alex de Minaur. Et lui aussi, il a connu un bon tournoi en battant Tsitsipas, Jack Draper et Casper Ruud en finale. De Minaur est vraiment un des meilleurs joueurs sur le circuit depuis l'année passée. C'est un huitième titre pour lui, Hugues.
Ouais, il bat quand même un Casper Ruud en forme. Ruud qui revient dans le top 10 cette semaine, top 10. Donc, belle victoire pour de Minaur à Acapulco.
Défend son titre.
Pardon?
Il défend son titre, d'ailleurs.
Il défend son titre, exactement. C'est important pour lui là, qu'il aille protéger ses points à Acapulco. Et il est parti très tôt après sa victoire parce qu'il devait se coucher pour prendre l'avion à 6 h le lendemain matin pour rejoindre sa copine, Katie Bolter, qui joue en finale à San Diego. Puis on va parler de ça un petit peu plus après.
Ben, on va en parler tout de suite parce que c'était. J'ai terminé avec Alex de Minaur pour faire un lien vers Katie Bolter qui l'a emporté à San Diego. C'était là où étaient Marina Stakusic et Leila Annie Fernandez. Et Katie Bolter, ben, elle a remporté le titre. Et on a vu là, un de Minaur émotif là, quand même dans les gradins quand il a vu sa copine aller jusqu'au bout.
Oui, exact. Je pense que c'est vraiment une belle semaine pour les deux. Deux qui gagnent le tournoi la même semaine. Lui qui prend l'avion pour venir voir son dernier match. Kelly qui était sur un très bon début d'année, mais qui connaît encore une fois un très bon tournoi en battant Navarro, Vekic.
Adad Maia.
En finale, Adad Maia. Ouais. Donc, vraiment solide. Des scores aussi comme des 6-3, 6-1, contre Emma Navarro, qui est quand même qui est une très bonne joueuse. Donc, je pense qu'elle peut être très, très contente de ce tournoi-là. Puis, elle rentre à Indian Wells avec beaucoup de confiance, malgré qu'elle joue Camila Giorgi au premier tour, qui peut être quand même un peu plus difficile à jouer. Mais non, très beau de voir que les deux... Le couple, en fait, parce qu'ils sont depuis quand même un petit bout, les deux et le couple gagnent simultanément cette semaine-là.
Oui, c'est quand même pas souvent qu'on voit ça. Là. Peut-être que Badosa et Tsitsipas auraient pu le faire, mais le faire la même semaine, ça reste quand
ils
même...
Ils sont comme... J'avais le goût... Non, c'est encore ensemble, mais j'avais le goût d'écrire à Katie cette semaine pour lui dire bravo, toi et Alex, vous êtes les... Taylor Swift et Travis Kelce de la semaine.
L'as-tu joué chez les juniors, Katie Bolter? Tu la connais-tu un peu?
Je la connais très bien, mais on ne s'est jamais joué dans les tournois. On a pratiqué ensemble beaucoup, surtout à Wimbledon et tout ça. Puis on se connaît très bien, mais on ne s'est jamais joué, par contre.
Tu vois, Hugues...
Vivez pleinement le Festival Montréal en Lumière en séjournant à l'Hôtel Montville. Avec 20% de rabais sur notre meilleur tarif disponible, petit déjeuner gourmand pour deux personnes, repas 4 services au restaurant Monem pour deux personnes. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Apprenez à créer de délicieux cocktails et plongez dans l'univers des spiritueux de la marque Circa lors d'une masterclass de mixologie unique au bar et restaurant Monem les 7 et 8 mars. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour en savoir plus.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado et particulièrement les plateformes numériques de Cogeco. En vertu de notre entente avec eux, on est bien content d'être partenaire avec Cogeco. Je rappelle également qu'on a une version télévisuelle à TVA Sport. Vous pouvez nous écouter ici et là, parfois avant les résultats de tennis. Et il y a d'autres nouvelles qui s'en viennent parce que Sur la ligne risque d'être un peu plus impliqué avec TVA Sport. Hugues et moi, on n'arrête pas de vouloir faire grandir ce projet-là et on en est bien fiers. Je disais avant la pause que il y a eu des grosses nouvelles cette semaine. Je veux, avant de parler de Simona Halep, je veux qu'on parle d'Andrei Rublev qui a été disqualifié, Hugues, après une dispute avec l'arbitre. Je sais pas, je dis Hugues, mais en même temps, Charlotte, on en parlait hors d'onde. Peut-être résumer un peu là, la situation, qu'est-ce qui est arrivé, puis après, on mettra à jour les gens là, sur qu'est-ce qui s'est passé depuis.
Oui, en fait, match de demi-finale, point serré, un peu un échange, je pense que c'était 5-4 dans le deuxième, on peut me corriger. Mais bref, l'arbitre de ligne appelle la balle, n'appelle pas la balle qui était selon Rublev out, finit par perdre le point, donc se tourne presque immédiatement vers l'arbitre de ligne, puis s'en va très près de lui, très agressivement, de manière intimidante, a commencé à lui crier après, lui pointer, donc on parle de quelques pouces du visage, puis de revenir à sa chaise par la suite très fâché. Donc là, on réalise que l'arbitre de ligne se lève et va voir l'arbitre de chaise pour lui dire « Bon, moi, je parle russe, je suis russe, donc j'ai compris ce qu'il m'a dit, puis il m'a insulté. » Donc là, c'est un peu là que le débat commence, où est-ce que l'arbitre de chaise descend de sa chaise, va voir Rublev, lui annonce la situation, que l'arbitre a compris ce qu'il lui a dit, que évidemment, tout le monde était conscient de la situation, là, qu'il y avait eu cet éclat là, de frustration-là qui était comme inacceptable. Là. Quand on regarde la scène, on peut comprendre qu'il y a beaucoup d'agressivité, puis que c'est pas... c'est choquant, là, il est pas de bonne humeur. Puis là, il dit « Ben non », il répond à l'arbitre « Ben non, je parlais pas en russe, je parlais en anglais, j'ai pas parlé en russe. » Puis là, on l'entend parler un peu en russe à l'arbitre pour lui dire « Je sais pas trop quoi. » Puis là, finalement, c'est là que le débat est. Donc, finalement, se fait disqualifier du match pour avoir eu des propos négatifs, insultants envers un arbitre. Puis, ils lui ont imposé aussi une amende. Ben, en fait, il perdait tous ses points et sa bourse de cette semaine-là. Donc là, ça a créé quand même une grosse polémique dans le monde du tennis où est-ce que plusieurs n'étaient pas d'accord, certains étaient d'accord de la disqualification, certains n'étaient pas d'accord d'enlever les points du tournoi au complet parce qu'on s'entend qu'il avait joué quand même un tour 1, 2, 3, donc il y avait quand même déjà 3 matchs. Je pense que c'est Andy Roddick qui disait « Oui, c'est inacceptable, oui, la disqualification est correcte, mais je vois pas sa réaction en rapport en quoi avec ses premiers matchs puis l'argent qu'il a fait dans le tournoi complet. »
C'est un débat intéressant, honnêtement, et c'est drôle parce que, bon, je connais pas Rublev personnellement, mais ça me semble un peu hors caractère dans son cas. Là. C'est un gars qu'on voit comme un bon gars.
Je te reprends tout de suite, Alex, c'est pas hors caractère, c'est vraiment classique. Quelque chose qui est classique chez lui. Je dirais pas que ça arrive à tous les matchs, mais c'est pas quelque chose que je suis surprise de voir. Il a un caractère quand même assez bouillant, puis moi, je le connais des juniors, puis encore une fois, quelqu'un peut changer, peut s'améliorer, mais il a toujours été comme ça, puis il l'est encore. On l'a vu, je pense, à d'autres moments dans sa carrière qui réagit un peu comme ça. Là. Je pense que le débat aussi, chose que je vais préciser, c'est qu'il y en a qui disaient mais il ne peut pas être disqualifié pour avoir insulté en russe s'il parlait en anglais, parce que quand on regarde le clip, on réalise que effectivement, il parlait en anglais. Il disait « la balle est out » ou il disait « t'as pas calé la balle out ». Non, non, non. Donc, c'est un peu là qu'il y a un mauvais discours. T'sais. Donc, oui. Moi, je pense que oui, effectivement, tu peux pas dire « on te disqualifie à cause que t'as insulté en russe » quand on regarde puis on entend l'extrait puis on se dit « oups, c'est en anglais qu'il parlait ». Donc, je pense que le geste en tant que tel, selon moi, a dépassé les limites. Là, je veux dire, c'est pas acceptable d'être dans la bulle de quelqu'un comme ça puis de l'agresser de cette manière-là. N'importe quelle profession, tu sais, t'es à ton bureau, tu travailles dans un établissement quelconque, dans une compagnie quelconque, c'est ça que je discutais cette semaine, puis il y a quelqu'un qui arrive vers toi parce que t'as fait une petite erreur au bureau puis il commence à te crier après comme ça puis à t'harceler puis à rentrer dans ta bulle puis... je pense pas que ce sera acceptable non plus. Donc, je vois pas... Tu sais, dans le sport, oui, il y a des émotions, puis on aime le côté émotion, mais dans un sens, il faut respecter notre entourage, il faut respecter le terrain, il faut respecter les gens qui sont là. Donc, je pense qu'il y a un peu tout ce débat-là. Là, je vous laisse y aller, mais...
C'est parce que ça frôle l'intimidation, c'est sûr, dans un cas comme ça. Je pense, Hugues, la question qu'il faut se poser... puis là, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que depuis, il a récupéré sa bourse, il a récupéré ses points.
Exact, exact.
Mais la question, elle est valable quand même. C'est-à-dire, est-ce que quand on disqualifie un joueur, on lui autorise ses points et sa bourse fait pour... les matchs précédents, ou est-ce qu'on décide de punir au nom du fait, ben, c'est un comportement inacceptable, tu devras vivre avec les conséquences, on n'en veut plus des comportements comme ça, tu perds tes points, tu perds ta bourse. Dans le cas de Roublev, qu'est-ce que tu allais dire?
Ben, c'est le règlement de l'ATP, mais effectivement, il a fait appel, et je pense qu'il a bien fait de faire appel, parce qu'effectivement, moi, ça m'a un peu surpris la posture du superviseur qui a cru sur parole ce que le juge de ligne disait, puis finalement, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Donc, ils ont été un petit peu rapides, je pense, à le disqualifier. Donc, il a finalement, comme tu le dis, récupéré sa bourse et ses points. Il garde juste une pénalité, un fine là, de 36 400, mais il récupère quand même, c'est 160 000 $ et 200 points, je pense, qu'il allait chercher grâce à sa demi-finale. Donc, on voit que l'ATP était un peu aussi inconfortable avec la décision, mais Charlotte a raison. C'est vrai que Roublev, souvent, ça va être dirigé un peu contre lui, mais il y a des grosses sortes d'humeur, des outbursts souvent. Je pense qu'en dehors du terrain, ça a l'air d'un gars drôle et sympathique. Là, moi aussi, j'ai une perception assez favorable de Roublev, en dehors du terrain en tout cas. Ouais, c'est vrai que sur le terrain, il y a plusieurs occasions où on dirait qu'il pète les plombs.
Ben, c'est parce qu'à l'extérieur du terrain, c'est lui, il avait élevé sa voix contre la guerre en Ukraine. Il avait écrit dans la caméra « No war, please ». C'est un gars qui est quand même, comme un certain, j'allais dire charisme, mais cachet de sympathie, là, je pense,
faut pas mélanger les deux non plus. Hein. Quand on est sur le terrain, je le sais, c'est émotif. Tu t'entraînes toute ta vie. Ta vie, c'est le tennis. Tu veux gagner, tu es compétitif. Tu te donnes à 100% souvent pour aller chercher ton point. Donc, quand il y a des injustices comme ça, qu'il y a peut-être une erreur, puis c'est un point important, puis tout ça, des fois, ça peut monter vite les émotions. Puis c'est ce que le public aime aussi, aime voir que les joueurs ont de l'énergie, ont des émotions, puis sont passionnés. Mais par contre, je pense que c'est ça, il y a des limites à pas dépasser. Je pense qu'il faut respecter, il faut pas aller dans l'intimidation puis tout ça. Je suis d'accord, moi aussi, que les points des matchs précédents n'ont pas vraiment à faire là-dedans. Je pense que si tu es pour disqualifier, ce que je trouve correct dans cette occasion-là, que peut-être il est allé trop loin dans sa réaction, je pense que tu ne le dis pas effectivement que c'était pour les paroles russes, là, parce que c'est pas ça qui est arrivé. Donc, je pense que c'est là l'erreur qui fait que les gens sont comme mécontents ou confus. Mais je pense que s'ils veulent disqualifier sur des réactions comme ça, ça peut aussi donner le ton pour les autres joueurs et joueuses qui, parfois, auraient des émotions qui montent, qui ont envie de se laisser aller puis de réagir envers le personnel, les arbitres ou peu importe qui. Donc, je pense que ça, c'est pas une mauvaise chose. Faut avoir comme... Mais encore une fois, c'est une zone grise parce que, tu sais, il est-tu allé dans sa bulle? Il était-tu loin? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a-tu crié? Il était-tu... Mm. Tu sais... Puis c'est d'analyser un peu chaque situation, mais c'est ça, celle-là est un petit peu complexe, là, mais comme on dit, il est allé chercher ses points, puis ça bouge.
Mais Hugues, si je te pose la question, toi, si on la pose hypothétiquement, là, on joue le jeu, là, Je ne sais pas. Est-ce que c'est légitime pour toi d'enlever la bourse et les points? Parce que, bon, on en parlait, Charlotte et moi, Ordon, et on se disait, pour Roublev, là, la bourse, ça ne change rien. Mais le joueur qui pète une coche en demi-finale, qui d'habitude ne se rend pas en demi-finale, et le 25, 35, 40 000, il fait toute la différence dans sa saison. Tu vas me dire, c'est sa faute, il a qu'à l'assumer. Mais il reste que c'est quand même super significatif pour ce joueur-là. Ouais. Est-ce qu'on lui coûte ses autres matchs qu'il a gagnés à la régulière, si on veut? Je ne sais pas. Je pose la question. Est-ce qu'on devrait revoir le règlement?
Oui, je pense que le default doit concerner le match où tu as été disqualifié et pas tout le tournoi. Ce qui a été fait de façon fair, de façon honnête, ce qui a été gagné avant une disqualification, pour moi, devrait être conservé. Donc, ça, c'est une partie du règlement qui pourrait peut-être être revue. Après, pour ce qui s'est passé avec Rublev, effectivement, ça a été ce qui a été dit et pas ce qui a été évalué sur le terrain au moment de la disqualification. Mais on est aussi en 2024. On se souvient des années 80-90, McEnroe, Connors, tout ça, qui jouait beaucoup avec la foule, avec des éléments qui pouvaient déranger leur adversaire aussi pour changer le rythme du match. Et on poussait la limite, acceptable à plusieurs reprises. On était très rarement pénalisés pour ça. Donc, moi, je suis pour le fait qu'il y ait une punition. Ce que Rublev a fait, c'était vraiment trop, là. Puis Charlotte, tu l'as bien dit, là, il est vraiment rentré dans la bulle à quelques centimètres du nez du juge de ligne, c'était violent. Hein. Mais encore une fois, pour les règlements, je pense que ce qui est gagné avant un default devrait être conservé.
Intéressant. Enfin, c'est ça nous permettait de pouvoir discuter de ce règlement-là. C'était pas tant de la situation de Rublev comme tel. Je pense que sur la situation, effectivement, comme il y a une zone grise, là, comme Charlotte l'a mentionné, je pense qu'on a pris la bonne décision dans ce cas-là, mais je pense que ça vaut quand même la peine qu'on se pose la question sur ce règlement-là. C'était la semaine des appels gagnés dans le monde du tennis. Et celle-là, j'avoue, m'a surpris un peu aujourd'hui parce que sorti tout juste de son appel tout sourire, Simona Halep, Hugues, va revenir au jeu. Elle a gagné son appel. On a jugé que raisonnablement, il pouvait y avoir des traces de contamination là dans son alimentation, dans ses suppléments alimentaires. Et c'est ce qui fait qu'on a décidé que elle n'était plus suspendue et elle pourrait jouer le prochain tournoi.
Donc, effectivement, sa suspension a été réduite à 9 mois. Elle a déjà plus de 9 mois d'arrêt derrière elle. Donc, elle peut recommencer à jouer maintenant. On verra si elle est en forme, quand elle va revenir. Mais bon, le plus tôt sera le mieux pour elle. On sait que Simona Halep, ancienne numéro 1, joueuse de 32 ans aujourd'hui, était en appel sur cette décision-là qui le 9 mois se terminait le 6 juillet. Donc, elle est tout à fait prête à jouer maintenant là, avec la réduction de cette pénalité. Donc, c'est une bonne nouvelle pour elle. Je pense que il y avait beaucoup de doutes sur ce qui s'était vraiment passé. Est-ce que c'était un dopage conscient là, qui avait eu lieu? Mais visiblement, le jury qui évaluait la cause a jugé qu'il y avait un doute raisonnable là, sur ce qui s'était passé et que ces produits auraient pu être contaminée, donc elle s'en sort et elle sera de retour.
On lui a même accordé le 30 000 euros là, de 30 000 $ en fait en dommages et intérêts là, pour, j'imagine, ses dépenses financières. Deux questions pour toi, Charlotte. La première question que ça pose, est-ce que l'alimentation, les suppléments, tout ça, c'est la responsabilité du joueur et est-ce que le joueur devrait avoir mainmise sur ça? Et en même temps, la question que je me pose, c'est les joueurs délèguent parce qu'ils ont une chose à penser, leur première balle, leur premier service, leur coup droit, et veulent laisser tout à l'extérieur. Je ne sais pas. Toi, comme athlète, est-ce que tu voudrais garder un œil là-dessus, sachant que ça, une situation comme ça pourrait arriver?
Écoute, moi, Alex, je vais être bien franche avec toi. Je pense que tout est la responsabilité de l'athlète.
Intéressant.
Je ne pense pas que tu te fermes les yeux et tu dis oui, 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 oui. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération quand tu es une joueuse ou un joueur de haut niveau, que tu joues professionnellement puis que tu es dans les meilleurs au monde. Beaucoup d'aspects qui sont importants qui font la différence à la fin de la journée. Donc, puis à la fin, c'est ta carrière, c'est toi, c'est tes résultats. Donc, je pense pas que quelqu'un dans ton équipe, peu importe que tu lui fasses confiance ou pas, te dit « Ah, tu pourrais essayer ça », puis tu dis juste « Bah oui ». on va l'essayer. T'sais, je pense qu'il y a quand même une certaine responsabilité, une certaine conscience qui doit venir de l'athlète de dire « j'ai des fans, j'ai une équipe, j'ai une famille, j'ai une reconnaissance qui vient avec tout mon succès, mais il faut que je fasse attention. » Donc, je pense pas qu'elle peut complètement... T'sais, je pense pas que c'est ce qu'elle fait, mais je pense que faut prendre la responsabilité de dire « bon, ben gars, j'ai ça qui se passe, j'aurais dû faire plus attention. » Puis je pense que dès que tu incorpores quelque chose de nouveau dans ton alimentation, dans ton programme, peu importe, il faut que ce soit quand même analysé quelque peu. Là. Tu ne peux pas juste y aller au hasard puis décider de faire quelque chose sans vraiment savoir c'est quoi. Je pense qu'on est tout un petit peu plus intelligent que ça là, quand on a une carrière professionnelle.
Bien, c'est intéressant ce que tu dis en disant bien, finalement, l'athlète, c'est le boss de l'équipe. C'est lui qui gère l'entourage et ultimement, c'est lui qui va être imputable de ce qui va se passer. Alors, il se doit de garder un œil sur ce qui se passe. Là, évidemment, on a entendu toutes sortes de choses. On sait qu'elle a travaillé avec Mouratoglou. Son nom est revenu à quelques reprises. Douteuse comme ça, là. Alors, non, je...
Faut faire attention, puis comme tu dis, c'est toi le boss de ton équipe, c'est ta carrière, t'as des gens autour de toi qui t'aident, qui te supportent, mais moi, je suis toujours un petit peu comme... c'est ton niveau de crédibilité, quand on commence à parler de drogue, selon moi, dès qu'il y a des doutes, puis il y a des traces, moi, j'écoute plus beaucoup, tu sais. Je suis plus très ouverte à dire « Ah, peut-être que c'est pas ta faute, peut-être que si, peut-être que ça. » T'sais, c'est soit que t'en as pris ou soit que t'en as pas pris, selon moi. T'sais, les traces, pis ci, pis ça, ben, je veux dire, fais attention, tu le sais que tu vas te faire tester régulièrement. Puis à savoir comment, tu sais, les athlètes sont en forme, puis tout ça, des fois, c'est un peu suspect, donc. On ne peut pas juste se fermer les yeux et dire « oui, c'est correct, c'est la faute de peut-être son équipe ou tout ça ». Moi, je pense vraiment que c'est à faire attention. Là.
Bon, en même temps, c'est un dossier qui a été évalué pendant de longs mois. Il y a eu toutes sortes de rebondissements. Exact. Alors, j'ai l'impression que si on juge que c'était raisonnablement dû à une contamination alimentaire, j'ai l'impression qu'on peut se fier à ce résultat-là et en avoir confiance. Ce qui est certain, Hugues, c'est qu'on va être content de revoir Simona Halep parce que, ben ici, même au Canada, j'ai l'impression qu'on a une espèce de faible pour Simona Halep parce qu'elle a remporté souvent le tournoi au Canada. Cette espèce de lien entre la communauté roumaine et la communauté canadienne, et peut-être même un lien par la bande avec Bianca Andreescu, qui sait. Mais il reste que c'est une joueuse, je pense, qui était appréciée du public, une championne Grand Chelem, une ancienne numéro mondiale. C'est pas mauvais pour le tennis qu'elle revienne sur le circuit, j'ai l'impression.
Oui, et puis on se souvient, elle avait été en finale à Toronto, c'était en 2022 contre Haddad Maia. Donc, elle a eu toujours des bonnes performances ici, très, très appréciée. C'est une joueuse qui a donné du fil à retordre à des grandes joueuses comme Serena Williams. Je suis content que la cause se termine de cette façon-là pour Simona Halep.
Ben parce que tu te souviens, dans les discussions qu'on a eues dans les derniers mois, on se disait c'est peut-être la fin de la carrière de Simona Halep. Si la suspension se poursuit, oubliez ça, là, on ne la reverra pas. Et là, j'ai l'impression qu'on va voir un tour. Maintenant, la deuxième question que j'avais pour toi, Charlotte, dans ce contexte-là, après une aussi longue période sans activité, est-ce que c'est compliqué de revenir au jeu pour un athlète de ce niveau-là? Parce que, le pôle de joueurs continue de progresser, lui, pendant ce temps-là. Et toi, tu peux pratiquer, mais c'est jamais comme jouer un match. Je ne sais pas, comment c'est pour un athlète après une aussi longue période d'inactivité, de compétition intense de revenir?
Bien, c'est sûr, comme tu dis, il y a une période d'arrêt, mais il y a aussi une période de stress, puis... de pas savoir ce qui va arriver, d'imprévisibilité. Donc, je pense que ça rajoute aussi au niveau de stress puis d'énergie qu'elle avait probablement durant cette période. Je pense pas qu'elle était psychologiquement probablement à son mieux, physiquement à son mieux. Tu sais, peut-être que oui, mais dans des circonstances comme ça, où est-ce que tu as des accusations de dopage puis de drogue, probablement que ça l'affectait. Donc, je pense pas qu'elle a Je sais même pas si elle a continué de s'entraîner comme elle se serait entraînée habituellement. J'ai pas ces informations-là. Mais même si elle a continué de s'entraîner, je pense qu'il y a quand même ça qui l'a beaucoup affectée. Donc, on peut dire que oui, elle s'est gardée en forme, elle a continué à frapper, elle s'attendait de revenir, donc elle préparait son retour. malgré qu'elle jouait pas, probablement qu'elle s'entraînait, etc., etc. Mais je pense que ça doit l'avoir impacté d'une certaine manière. Donc là, c'est de voir, c'est sûr que de pas jouer de tournoi, c'est une chose aussi, là, même si tu continues de t'entraîner, le stress des tournois, de voir le niveau, chacune, on se pousse mutuellement, tu sais, on suit à chaque semaine. Donc, je pense que ça donne une certaine assurance aussi. Donc, peut-être de revenir après aussi longtemps, c'est sûr que ça va être un ajustement pour elle. Peut-être qu'elle va avoir des difficultés les premières semaines. Ça va être à voir, mais définitivement, quand tu as une blessure ou quelque chose qui se passe qui fait que tu arrêtes pendant plusieurs mois, voire plus d'un an, c'est difficile le retour par la suite. Puis là, elle a vécu des choses émotives. C'était peut-être la fin de sa carrière pour elle. Elle a quand même 32 ans, comme tu disais. Si c'était plusieurs années, peut-être qu'elle ne serait jamais revenue. Elle se serait dirigée vers d'autres choses. Puis ça finit une carrière quand même assez négativement avec une accusation de dopage puis une sanction comme ça. Donc, je pense que ça change beaucoup de choses pour elle. Évidemment, on va faire confiance au processus qu'ils ont fait pendant aussi longtemps. Contente pour elle qu'elle puisse revenir, mais je pense que ça va quand même l'avoir freinée. Puis ça va prendre un petit peu d'ajustement, puis de temps avant qu'elle puisse retrouver un niveau. Mais ces athlètes-là qui ont ce potentiel-là, qui ont eu ces résultats-là, je pense que ça revient quand même assez rapidement.
Intéressant. Il y a des précédents. Je veux dire, quand on regarde Maria Sharapova après sa suspension, bon, c'est pas exactement le même genre de situation. Là, elle, bon, visiblement, c'est des médicaments pour la concentration, là, si je me souviens bien, mais il reste qu'elle n'est jamais revenue la même Maria Sharapova après. Elle était en fin de carrière, cela dit. Ça ressemble peut-être étrangement, là, je ne vais pas mettre son arrêt à la retraite, mais ça ressemble un peu.
Ouais. Exactement, c'est un peu semblable. Mais ça fait mal à une carrière. Tu sors de là un peu écrasé, puis fragile, je pense, mais elle va revenir, j'en suis sûre.
Bon, ça, c'est intéressant. On va regarder ça. En même temps, je veux dire, tu regardes un joueur comme Marin Cilic qui avait été suspendu pour dopage lui aussi, remporté le US Open par la suite. Une fille comme Kim Clijsters qui est allée avoir un enfant qui était loin du terrain. Elle est revenue, elle a remporté des grands chelems. Elle est redevenue numéro un mondial. Je pense que ça n'a pas allé dans les deux sens. Ça va être assez intéressant.
C'est ça. Des fois, ça fait du bien. Tu as un petit temps pour réfléchir, faire d'autres choses, te changer les idées, revenir plus fort. Des fois, ça te fragilise puis ça t'insécurise. Donc, écoute, à voir pour elle.
Oui, on va faire une courte pause et au retour, on va terminer avec ce qui s'en vient du côté de Indian Wells.
Vivez pleinement le Festival Montréal en Lumière en séjournant à l'Hôtel Montville. Avec 20% de rabais sur notre meilleur tarif disponible, petit déjeuner gourmand pour deux personnes, repas 4 services au restaurant Monem pour deux personnes. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour réserver votre séjour. Apprenez à créer de délicieux cocktails et plonger dans l'univers des spiritueux de la marque Circa lors d'une masterclass de mixologie unique au bar et restaurant Monem les 7 et 8 mars. Rendez-vous sur hotelmontville.com pour en savoir plus.
De retour à Sur la ligne, le radio-podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Alexis Gimbal en votre compagnie, Hugues Léger et Charlotte Rebiomnet sont en ma compagnie également. Bon, on va terminer sur ce qui s'en vient à Indian Wells, un de nos tournois préférés de l'année. L'année passée, on y était. J'ai pu aller faire mon tour à ce magnifique tournoi. On m'avait dit, c'est une chance d'aller couvrir un tournoi, c'est Indian Wells. Charlotte, tu l'as joué, toi, chez les juniors. J'ai l'impression, Indian Wells, à quel point c'est beau ce tournoi-là?
Oui, ben il est reconnu hein, quand même. Je pense que tous les athlètes sont contents d'y aller. Tous les joueurs et joueuses sont contents d'y être. C'est une belle semaine pour eux. C'est agréable. Donc, je pense que... Oui, non, c'est fabuleux. Puis,
Tennis Paradise.
Tennis Paradise. C'est pour ça qu'on l'appelle le Tennis Paradise.
Ben, c'est pas loin de ça, honnêtement, là, de ce que j'ai vécu l'année passée, moi, on me l'avait dit là, que c'était beau, là, mais je veux dire, j'ai plus qu'été impressionné. C'est vraiment, le panorama est absolument phénoménal. Puis il y a cette proximité-là aussi avec les terrains de pratique qu'on retrouve pas nécessairement un peu partout dans le monde, mais comme on l'a ici à Montréal, là, où tu peux voir les plus grands athlètes, il y a beaucoup de tournois. Il y a même une passerelle au-dessus des terrains de pratique où tu peux aller voir les meilleurs joueurs pratiquer. Puis des fois, il y a cette espèce d'enclos si on veut, là, où les joueurs vont faire leur activation, se réchauffer, et souvent après vont aller signer des autographes directement parce que les partisans ont accès à leur réchauffement. Alors, c'est vraiment, vraiment bien fait. C'est un beau tournoi Indian Wells et vraiment, j'ai hâte qu'on puisse couvrir ce tournoi-là à nouveau et peut-être même sur place quand sur la ligne sera big et qu'on enverra Hugues Léger toutes dépenses payées à Indian Wells. Cela dit...
Moi aussi, assistante.
Toi aussi, oui, Charles. Ben oui, toi aussi. Tu seras là, toutes dépenses payées également. On sera tous là. On aura une équipe de 20 personnes quand sur la ligne explosera. On n'est pas loin de ça. On n'est pas loin. On n'est pas là, mais on n'est pas loin. On fera pas un trop gros analyse de ce qui va se passer. Je regardais les matchs du premier tour. Il n'y a pas beaucoup de matchs popcorn là, au premier tour particulièrement. Cela dit, il y en a un et tout un. Milos Raonic contre Rafael Nadal au premier tour. Quoi penser de ça? Est-ce que le Netflix Slam là, va avoir affecté Rafael Nadal selon toi, mon cher Hugues?
Ben, le Netflix Slam, rapidement, pour ceux qui l'ont regardé ce week-end, belle production, mais un match quand même ordinaire. Là, on a vu qu'Alcaraz faisait attention à sa blessure un peu. Nadal nous a sorti quand même un de ses coups funants, son fameux banana shot à bout de bras sur une balle de match qui a soulevé la foule. Mais bon, je ne sais pas dans quelle forme sera vraiment Nadal dans un tournoi d'envergure comme Indian Wells, qu'on appelle le cinquième grand chelem aussi. Donc, tous les grands joueurs seront là pour aller chercher le trophée. Puis Milos nous a montré des belles choses il y a quelques semaines. Rappelons-nous qu'à Rotterdam, il faisait jeu égal avec le meilleur joueur du moment, Yannick Sinner, après avoir perdu le premier set au tie-break 7-6. C'était 1-1 dans le deuxième avant qu'il retire sur blessure. Moi, je ne sais pas quoi penser de ce match-là. Est-ce que Raonic peut aller chercher cette victoire-là à l'extérieur contre Nadal? Je ne le sais pas, mais en tout cas, ça en est un match popcorn que je vais regarder avec beaucoup d'intérêt.
Ben, c'est deux joueurs énigmatiques. Et là, Hugues, j'ai été obligé de te reprendre. C'est le sixième grand chelem après la coupe sur la ligne disputée en général à la fin août.
que je n'ai pas le droit de participer.
Mais en fait, c'est ça.
Il y a un gros débat.
On n'a pas statué sur la réglementation des nouveaux joueurs admis ou admises dans le cadre du tournoi. Là.
Je serai l'arbitre.
Ouais, peut-être que tu seras l'arbitre ou peut-être comme, je sais pas, là, peut-être que ce sera comme aux échecs là, où le gagnant va affronter le champion du monde par défaut.
Charlotte, tu peux utiliser ton classement protégé, mais il y a un débat encore là-dessus.
Dans la coupe sur la ligne, ça serait bon. J'ai hâte de voir, parce que ce sont deux joueurs énigmatiques. Nadal, personne ne va être surpris s'il remporte Roland-Garros et tout le monde va être surpris s'il remporte Roland-Garros. Alors, c'est un gars que c'est dur à dire. Il est visiblement en mode peut-être dernière année. On lui a même posé la question sur sa retraite et sans le dire directement, là, ça commence à sentir le chant du cygne dans le cas de Rafael Nadal et peut-être même avant la fin de la saison, qui sait, on verra. Et dans le cas de Milos Raonic, ben, il a bien fait quand il a joué sans avoir de grandes victoires depuis le début de la saison. Il a quand même rivalisé. Alors, moi, bien honnêtement, là, dans le contexte actuel, j'ai l'impression que je vais favoriser Milos. Je ne sais pas. Charlotte, t'en penses quoi de ce match-là qui est certainement le match le plus intéressant là, de la première ronde?
Oui, on était tous très curieux quand on a vu ça il y a quelques jours. Comme tu dis, Nadal, c'est une légende de son sport. Gagner Roland-Garros pour la énième fois, puis s'il gagne encore une fois, ce ne sera pas surprenant de voir ses antécédents. Puis aussi, s'il ne gagne pas, évidemment, avec tout ce qu'il a vécu dans les derniers temps, dans la dernière année, avec sa blessure, puis tout ça, je pense qu'il s'accroche. Nadal, il veut rester, il veut continuer, il adore son sport, il est passionné et tout ça, mais je pense que c'est difficile physiquement pour lui de tenir la route, surtout qu'il y a un jeu qui est très physique. Qui couvre beaucoup le terrain, puis qui court et qui ramène toutes les balles. Donc, je pense que ça devient un peu difficile pour lui. Donc, c'est à voir s'il est capable de régler ça, mais en même temps, aussi, il faut qu'il pense à son corps, puis à sa santé. Donc, est-ce que ça va le mener à la retraite? Je ne le sais pas. Mais, cela dit, moi, je favorise aussi Milos. Dans ce match, je pense que Milos avait un très bon niveau. Finalement, comme tu dis, contre Sinner à jeu égal. Donc, ça va encore une fois dépendre des blessures. Mais je pense que sur cette surface-là, à l'extérieur, sur dur, je pense que Milos est favorisé. Puis, est dans une bonne séquence malgré qu'il y a eu des petits bobos ici et là. Puis Nadal, on l'a vu, tu sais, je veux dire, il joue encore bien malgré que c'était un match un peu hors concours amusant, là, qui ne jouait pas nécessairement à 100%. Donc, il y a plein de pour et de contre, mais je pense que Milos va avoir le dessus, selon moi, dans ce match.
Prédiction, Hugues? Tu t'es pas commis, je sais pas, est-ce que tu vois, est-ce que ce que tu as vu de Nadal, ça t'a assez rassuré pour penser qu'il peut être compétitif contre Milos et son gros service?
Ben, s'il y a une chose que j'ai appris, c'est à jamais parier contre Nadal, parce qu'il s'est tellement sorti de situations improbables au fil des années que j'ai beaucoup de difficultés à être contre Nadal. Mais effectivement, ce que j'ai vu dans Netflix Slam, ça ne m'a pas nécessairement rassuré, même s'il a été gagné un set. Et comme Guillaume Marx nous disait la semaine dernière, Milos va faire des coups cette année. Il va pas jouer chaque semaine, mais il va aller chercher quelques grosses têtes durant l'année probablement. Et je pense que Nadal sera à sa portée dans ce premier tour à Indian Wells.
Intéressant. On est presque unanime. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Félix a un bail au premier tour du côté des hommes. Et Shapovalov, lui, a quand même un défi. Je sais pas. Je me demande si chaque match est rendu un défi dans son cas. Peut-être avant d'aller sur Shapovalov, je ne sais pas si ça peut vous aider, mais Milos Raonic a 2 victoires contre Nadal en une dizaine de rencontres, dont une à Indian Wells. Ça se passe en 2015. Fait qu'il y a presque une dizaine d'années quand même. Ça va vite. Mais il reste que bon, peut-être que Indian Wells le favorisera à nouveau. Et qui sait, c'est genre. C'est une bonne façon là, de pouvoir battre Nadal en fin de carrière et dire à ses enfants qu'il a déjà battu Raphaël Nadal à quelques reprises, dont une dernière fois en fin de carrière.
Alors, ça sonne bien dans une conversation.
Exact. Non, ça c'est sûr. Hein. Et comme Félix va pouvoir dire, j'ai déjà battu Federer sur gazon, il va pouvoir dire ça. Mm-hmm. Ça, c'est quand même pas si mal.
Extraordinaire.
Exact. Je disais, Denis Shapovalov va affronter Botic Van de Zandschulp pour le premier tour. C'est quand même pas évident. C'est un gars qui a déjà été classé près du top 20 mondial, mais il est autour de la 80e place mondiale. Je sais pas, Hugues, je disais que Nadal et Milos étaient énigmatiques, mais j'ai l'impression que Shapovalov l'est encore plus. Est-ce que je me trompe?
Oh, exactement. Il y a beaucoup de points d'interrogation pour Denis Shapovalov en ce début de saison. Ce qui est bien, c'est qu'il enchaîne quand même les matchs. Quelques performances correctes, dont sa qualification à Rotterdam. Mais bon, faut voir s'il peut enchaîner des victoires maintenant. Donc, à voir pour Denis. Mais je suis content qu'il mette l'effort, qu'il mette le travail et qu'il soit là semaine après semaine en ce moment. Mais ça va être un match difficile, c'est certain.
Ouais, il n'a pas passé. Il a passé une fois seulement le premier tour cette année. C'était à Montpellier contre Alexander Bublik. Il avait fait un bon match et quand on regarde le début de saison de Bublik, c'est quand même encourageant, mais il reste que c'est à peu près le seul moment encourageant. C'est le passé, il a perdu au premier tour contre Andy Murray. Et là, on peut dire que c'est Andy Murray qui, même s'il est en fin de carrière, il reste quand même toujours compliqué. Là, parlez-en à peu près tout le monde qui l'a affronté dans les dernières années. Il vous en donne pour votre argent de façon générale. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner de ce côté-là. Je regardais le tableau de Félix Auger-Aliassime et il aura probablement un début de tournoi, peut-être, je sais pas, il y aura un qualifié théoriquement au deuxième tour parce que ce sont deux qualifiés qui s'affrontent, mais ce serait possiblement Carlos Alcaraz au troisième tour, là, ça sera pas évident pour le cher Félix Hugues.
Ouais, ronde de 32, forte chance qu'il rencontre Alcaraz. Si jamais il gagne son premier match, on sait toujours que les premiers matchs, les entames de tournoi sont souvent compliquées pour Félix. Donc, avant de le mettre tout de suite contre Alcaraz, on va bien regarder ce match-là contre le joueur qualifié parce que c'est souvent compliqué au premier tour. On sait que Félix a besoin de rythme pour jouer à son plein niveau. Il faut une couple de matchs avant, on dirait, qu'il révèle son meilleur jeu, qu'il sorte son meilleur jeu. Donc, voyons voir, mais je serais bien curieux de voir ce match contre Alcaraz, contre qui Félix avait une fiche parfaite pendant un certain temps. Mais là, ça ne sera pas la même histoire, je crois, si jamais il se joue.
Ouais, c'est ça. C'est un peu triste parce que, bon, encore une fois, s'il atteint le troisième tour, on va se dire mission accomplie, mais tu sais, on voudrait le voir aller plus loin. Mais en même temps, je veux dire, c'est quand même Alcaraz. Mais qui sait, il a quand même en partie le numéro d'Alcaraz. Alors, on s'en reparle la semaine prochaine.
Alex, n'oublie pas que Félix, maintenant, qui est tombé à la 31e position, il va avoir plus souvent maintenant des matchs de deuxième tour compliqués comme ceux-là. Donc, il faut qu'il aille les chercher s'il veut remonter au classement.
Très vrai. Léla Annie Fernandez, elle aussi aura un laissez-passer au premier tour. Je regardais son tableau, c'est quand même Trevisan, possiblement au deuxième tour, et peut-être une Pegula ou une Pliskova au troisième tour. Ça sera pas simple. Là. Et s'il fallait qu'elle passe une Pegula ou une Pliskova, ben, elle aurait peut-être une Garcia qui est littéralement sa bête noire au quatrième tour ou une Sakkari qui allait 0-3 contre Sakkari. Encore une fois, bon, une ronde des 16, ce serait déjà peut-être dire mission accomplie pour Leila Fernandez.
Ouais, c'est un gros tableau pour Leila encore, mais rappelons-nous qu'elle avait battu Trevisan sèchement en Billie Jean King Cup aussi. Donc, Trevisan, qui est celle qui l'avait battue en quart de finale à Roland-Garros l'année précédente, le fameux match où elle s'était blessée au pied. Donc, je pense que Leila peut aller chercher ce match-là contre Trevisan, si jamais Trevisan bat Diane Paris, là, la Française au premier tour. Mais le tableau de Leila par la suite, c'est quand même du costaud. Mais encore une fois, un match après l'autre, moi, j'aimerais bien là, qu'elle se rende en ronde de 32 là, sur ce tournoi-là. Elle joue, elle a le calibre pour aller chercher des grosses victoires encore. Quand je vois Sakkari sur sa route, ça serait le moment de battre une Sakkari, par exemple. Je pense que Sakkari est plus à son mieux en ce moment. Donc, souhaitons que Leila fasse un beau tournoi. Si son épaule va bien, elle pourrait nous surprendre.
Rybakina et Carlos Alcaraz sont champions en titre de ce tournoi-là. Hugues, rapidement, là, si je te demande peut-être qui vois-tu l'emporter du côté masculin et du côté féminin?
Je pense que Yannick Sinner va confirmer son excellente saison à 3-3. Il serait après Rotterdam et évidemment l'Open d'Australie. Et du côté féminin, dans mon pool, j'ai mis Sabalenka comme championne à Indian Wells.
Bon, deux choix qui sont très raisonnables. Hugues ne sort pas trop des sentiers battus. Si j'y vais avec ta prédiction à toi, Charlotte, qui vois-tu peut-être comme potentiel champion et championne?
C'est une bonne question que je n'y avais pas pensé. oui, je pense que Sinner a des bonnes chances de gagner le tournoi avec son début d'année incroyable. Donc, je pense que je vais devoir y aller avec Sinner. Du côté des femmes, je pense que Rybakina va prendre la revanche et va aller chercher le titre cette fois-ci. Encore une fois.
Ça pourrait être intéressant. Tu pourrais défendre son titre. Moi, du côté des hommes, j'hésite. Du côté des femmes, j'allais dire, c'est assez simple. Je pense que j'allais aller avec Coco Gauff. Retour à la maison avec elle. Je pense que les championnes en titre du US Open, elle va avoir la foule derrière elle. Je pense que c'est un choix intéressant, Coco Gauff comme championne. Et on sait qu'elle peut maintenant remporter tous les tournois sur cette planète-là. Et du côté des hommes, je vais vous avouer, je suis embêté. Moi, je ne vais pas y aller avec Sinner. Je pense qu'il pourrait très, très bien l'emporter. J'hésite entre Djokovic et Medvedev. Ils sont les deux relativement reposés. Medvedev, il a quand même bien fait là, une finale à Melbourne. Il a perdu contre Humbert, qui a éventuellement remporté le tournoi à Dubaï, mais il n'a que deux tournois de jouer. Il va arriver très en forme. Je pense que je vais y aller avec Medvedev parce que je pense que Djokovic a perdu un peu de rythme, mais je pense que ce serait un de ces deux-là qui l'emporterait. Alors, mais je vais y aller avec Medvedev et Coco Gauff. Voilà. Les choix qui ont du sens,
sens
pour vous. À voir. Ben oui, voilà.
C'est toujours, la bonne prédiction.
C'est toujours délicat, les prédictions. C'est pour ça que moi, j'y vais souvent avec le classement, avec le head-to-head, avec quel joueur est en forme en ce moment. J'aime pas trop ça, faire les prédictions. Mais bon, écoute, toutes les rationnelles sont les bonnes là, pour les choix qu'on a donnés, je pense.
Mais en fait, l'avantage des prédictions, c'est qu'on en parle juste quand on a raison. Puis quand on n'a pas raison, ben, on n'en parle pas.
Ben, Évidemment, on n'a pas raison, c'est parce que c'est Nico qui n'a pas eu raison et là, on en parle aussi.
Ah, ben oui, mais là, c'est
ça. On salue Nico d'ailleurs.
C'est ça l'affaire. Nico n'est pas là pour nous faire bien paraître avec ses mauvaises prédictions, malheureusement. Ben voilà, c'est ce qui complète l'épisode de cette semaine. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado. Charlotte Robillard-Millette, je te remercie infiniment. Et Hugues Léger, comme c'est la tradition, je vais te donner le mot de la fin.
Bon tennis, Charlotte. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde.